Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Sortir du nucléaire, Dromardèche. Aujourd'hui, nous recevons Jocelyn Perret à l'occasion de la sortie de son livre « Une énergie antinucléaire, mon engagement dans les réseaux écologistes ». Mais avant, Georges, tu veux nous parler de Fukushima ?
Oui, je suis toujours là pour vous donner des infos de Fukushima. Alors, le 1er septembre 2012, selon le quotidien Fukushima Minpo, un projet d'autoroute Tomiaka-Minami-Soma, antérieur à la catastrophe, est maintenu malgré le fait qu'elle passe dans la zone interdite, où il y a des mesures de 50 millisieverts par heure. Ensuite, un couvercle sur la cuve du réacteur numéro 4 a été mis en place, toujours sur ce réacteur. Je n'ai pas de nouvelles sur une intervention de TEPCO pour l'extraction des barres avant la fin 2012. Ensuite, sur le réacteur numéro 3, une partie du bâtiment numéro 3 vient de s'écrouler le 20 septembre dans le plus grand silence. Une poutrelle de 7 mètres de long et de 470 kg heurtée au cours de travaux est tombée dans la piscine. Le problème est que cette piscine contient 514 assemblages de combustibles usagés et 52 neufs à base de MOX, dont la particularité est de contenir du plutonium-239, fabriqué en France à Marcoule, ainsi que du plutonium-241 très instable. On pourrait s'étonner que le contenu de cette piscine n'ait toujours pas été vidé, mais l'opération est rendue difficile puisque le chariot qui permettait ce déchargement était lui-même tombé dans la piscine. Je vous invite pas à aller dans la piscine, bien sûr. La transparence étant rarement de mise dans le milieu nucléaire, ce n'est qu'un an après que nous avons été informés de cet accident. D'ailleurs, dans la même logique, ce n'est que maintenant que nous apprenons que les réacteurs numéro 5 et 6 de Fukushima ont rejeté du tritium dans la mer au mois d'avril et mai dernier. Par rapport à cette piscine, que peut-il se passer après? Si l'une des piscines de Fukushima venait à se vider de son eau, ou pire, à basculer, les assemblages radioactifs se mettraient à chauffer sans qu'il soit possible à un certain moment de les refroidir. Et dès lors, tout est à craindre. Ce qui est valable aussi, bien sûr, pour le réacteur numéro 4. Ensuite, le 14 septembre, alors qu'il promet un ambitieux plan énergie depuis plusieurs mois, le gouvernement Noda annonce l'arrêt définitif et progressif de la production nucléaire d'ici à 30 ans, soit dans les années 2030. Ce qui est décidé, aucune construction de centrale, arrêter les réacteurs existants après 40 ans d'activité et n'accepter le redémarrage des tranches suspendues qu'après des examens de sécurité. Actuellement, deux réacteurs sont en marche depuis juillet. Il ne faut ne pas oublier les élections législatives éventuelles en novembre qui risquent de voir le Parti libéral démocrate revenir au pouvoir. Ce parti, une fois au pouvoir, accélérerait le redémarrage des réacteurs. Voilà, je vous laisse méditer toutes ces informations.
Merci Georges. Je pense que sur l'affaire de Fukushima, tu auras l'occasion de revenir dans les prochaines émissions. D'ailleurs, je rappelle, on fera une annonce le mois prochain, mais fin novembre, début décembre, un ingénieur de la CRIRAT qui a passé plusieurs semaines sur la centrale et dans les environs au Japon, Gérard Carreron, sera présent dans un meeting, une réunion publique à Valence, mais on redonnera l'information le mois prochain. Avant qu'on parle, donne la parole à Jocelyn Perret, je voudrais revenir sur la lutte des salariés d'Essor, une entreprise de sous-traitance de la centrale nucléaire de Cruas. Le 5 juillet 2012, ils se sont mis en grève à l'occasion d'un nouveau renouvellement de marché. EDF, avec la complicité des entreprises de sous-traitance, a voulu profiter de ce renouvellement pour remettre en cause le découpage des équipes de travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, lorsque les salariés d'une entreprise sont organisés syndicalement, disposent de délégués du personnel, DP, CE, CHSCT, il suffit de partager, de découper les marchés en 2, 3, 4 entreprises différentes pour que les effectifs de chacune d'entre elles ne dépassent pas le seuil de 50 salariés nécessaire à une représentation du personnel au comité d'entreprise et surtout au comité d'hygiène sécurité. Par la même occasion, on isole les délégués du personnel, on les disperse dans les différentes entités ainsi créées. C'est tout bénef pour les entreprises et pour EDF. Plus d'équipes syndicales, des patrons différents, un personnel éparpillé, le vieil adage divisé pour régner. Les salariés se sont donc mis en grève et ont, en plein été, tenté d'alerter l'opinion sur le fait que la sûreté nucléaire du site est intimement liée aux conditions sociales qui leur sont faites pour l'entretien des centrales. Au vu de cette réalité, ils se qualifient eux-mêmes de « forçats du nucléaire ». Ils affirment, et je les cite, que la maltraitance sociale qu'ils subissent et qui porte atteinte à leur santé est incompatible avec la sûreté due à la population. Après plus de 3 semaines de conflit, ils ont enfin obtenu satisfaction et EDF a renoncé à diviser le marché. Ils ont obtenu la reprise de ce marché de cruasse par une seule entreprise, la reprise à l'identique de l'ensemble des contrats de travail CDI et CDD avec l'ensemble des avantages acquis, la reconduite de tous les mandats et le maintien du CHSCT du site, la reconduite de tous les accords d'entreprise et le maintien des aspects les plus avantageux, la convention collective de l'ingénierie et les bureaux d'études applicables chez Essor. Le transfert enfin des droits de prévoyance, intéressement et participation. Cette lutte victorieuse menée avec le syndicat CGT et qui a reçu le soutien de sortir du nucléaire 0726 a soulevé une nouvelle fois le danger d'organiser le travail dans les centrales avec de plus en plus de sous-traitance et de moins en moins de droits pour les salariés. Nous ne le rappellerons jamais assez. En finir avec la sous-traitance est la condition sine qua non d'un entretien des centrales nucléaires de haut niveau de sûreté pour les populations et pour l'ensemble du territoire. Si vous voulez plus d'informations sur cette lutte des travailleurs de la sous-traitance du nucléaire, vous pouvez vous reporter sur le site de ces salariés qui s'appelle www.mazonecontrolevamal.com. Vous pouvez retrouver cette adresse sur notre site. Et maintenant, une petite pause musicale avec Zazie qui va nous chanter « Je suis un homme ».
Je suis le roi de l'illusion.
bien, pour rencontrer Jocelyn, on a fait le choix pour nos auditeurs de ne pas le retrouver dans notre studio en direct, mais dans son activité militante, on va dire, puisque c'était la présentation de son livre à Pierrelatte le 20 septembre 2012. Et rencontrer Jocelyn à ce moment-là, c'était le résumé de son livre et de ce qu'il a voulu essayer de nous raconter. Alors, on en a parlé un petit peu avant dans l'émission, mais je sens une première question comme ça. Quand on est un jeune quadragénaire, avec là, de 2004 à 2012, 8 ans de militantisme dans le réseau Sortir du Nucléaire, qu'est-ce qui a donné l'envie d'écrire un livre et cette expérience militante ?
Au départ, c'était pas prévu que ce soit un livre. Au départ, c'est quand j'ai décidé de quitter le réseau Sortir du Nucléaire en 2010, je me suis dit que ça serait bien s'il restait une trace, un historique de ce que moi j'avais vécu, parce qu'on est souvent justement en manque un peu de cette histoire du militantisme et des actions. Donc j'ai commencé plus par faire une sorte de compte rendu. Je quittais mon poste, je leur faisais un compte rendu, un bilan de ce que moi j'avais fait, de ce que j'avais vécu pendant ces 8 années. Un peu moins à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, d'anecdote en anecdote, de souvenir en souvenir, ça a gonflé. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec quelque chose d'assez volumineux. Et là, je suis allé voir un copain, Mimo, sur Lyon. Et pour lui présenter le document, pour deux raisons, c'est qu'il tient un centre d'information sur les alternatives sociales, et qu'il est également éditeur, et que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup tout ce qui est la sociologie. Donc je trouvais que tout ça pouvait être intéressant par rapport à ce document. Et quand je lui ai présenté, il m'a dit oui, c'est très intéressant. Il m'a juste demandé de le réécrire entièrement pour pouvoir l'éditer. Donc comme à ce moment-là, j'étais au chômage, j'ai pris le temps pendant 2 mois de tout réécrire, et je lui ai envoyé la 3e version, et là il a été d'accord pour éditer. Donc je lui ai dit oui, en sachant qu'en plus j'étais déjà très surpris que ça prenne ce format là, c'est-à-dire le format d'un livre. Et puis j'ai été agréablement surpris que ce soit en plus avec les ateliers de création libertaire, puisque c'est une maison d'édition que je connais depuis assez longtemps et que je lis assez fréquemment. Donc il y a eu une sorte de contentement personnel. Voilà, et c'était une très belle expérience aussi à vivre.
D'accord. Et bon, on ressent dans le livre à la lecture que effectivement il y a un côté un peu journal, et ça c'est vrai que c'est important de relater un petit peu les expériences militantes, parce que souvent on en fait et on oublie un peu de laisser des traces. Il y a aussi dans le livre, quand on le lit, beaucoup d'humour, mais aussi je dirais un peu beaucoup de tendresse dans les rencontres. Alors il y a les rencontres avec des gens connus, Didier Anger par exemple, des rencontres un peu plus acides avec d'autres, je les citerai pas, mais il y a aussi toutes ces rencontres avec tous ces militants salarié de Sortir du Nucléaire. C'est un choix, mais c'est aussi une forme de vie. C'est un peu ce que tu ressens de ton expérience militante.
Moi, ce qui m'a porté pendant toutes ces années-là, bien sûr, en premier, il y avait la lutte antinucléaire. Et la deuxième chose, c'est vraiment la dynamique humaine, les idées qui grouillent, l'envie d'aller vers quelque chose d'autre, de changer un peu de société. Et c'est vrai qu'au sein du réseau Sortir du Nucléaire, et pas seulement les salariés, mais vraiment tous les sympathisants, les milliers de sympathisants qu'il y a autour, c'est eux qui font la lutte. Et c'est eux qui m'ont donné à la limite l'énergie pour moi pouvoir continuer à lutter en tant que salarié, parce que des fois on sait plus quoi répondre à qui, tellement on croule sous les sollicitations. Mais je crois que oui, c'est si j'ai tenu aussi longtemps, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui étaient exceptionnels. Donc de Didier Anger, qui est on peut dire en gros qu'il a été un peu mon parrain, parce que il m'a expliqué beaucoup de choses, il m'a accompagné sur l'organisation du premier rassemblement, jusqu'à certains salariés qui sont encore ou qui sont plus au réseau, hein, que ce soit Stéphane Lhomme suite à un conflit qu'il y a eu, qui a été licencié, à certains salariés qui sont encore en place comme Laura Hamou, mais je trouve que c'est des gens qui ont du cœur. Qui ont une intelligence, qui ont une humanité, et c'est vrai que j'en ai rencontré énormément, donc certaines personnes avec qui j'ai été très proche, d'autres personnes avec qui ça l'était un peu moins, mais dans l'ensemble c'est vrai que j'ai été charmé par ces relations humaines qu'il y avait dans ces réseaux-là.
Oui, en gros on peut dire que le milieu militant n'est pas spécialement l'image de caricature que l'on a de gens soit sérieux, soit manquant d'humour, etc. On voit bien dans le livre qu'il y a plein de rapports assez chouettes. Justement, par rapport à ces...
L'expérience militante que tu relates là, sur, dans le réseau Sortir du Nucléaire, c'est une expérience militante un peu particulière, parce que à la fois militant, à la fois salarié d'une association, Sortir du Nucléaire, c'est un problème d'une certaine façon. Un militant, il donne son temps, il n'est pas payé pour ça. Un salarié, bah, il a des horaires de travail, il a un respect du code du travail et tout ça. C'est vécu comment? On sait que ça sera aussi ça la crise hein, du réseau à un moment donné, on en reparlera après. Mais c'est vécu comment quand on est à la fois militant et salarié?
On continue à être militant avant d'être salarié et on compte pas vraiment les heures. On a des règlements intérieurs qui nous disent qu'on ne doit pas faire plus de 10 heures supplémentaires par mois, par exemple. Mais c'est les 10 heures qu'on déclare. Les autres, on le déclare pas. Et c'est justement là, des fois, un peu le souci, c'est de réussir à s'arrêter. Parce que on est militant et salarié. Donc, par rapport à beaucoup de militants qu'on croise qui, eux, sont juste bénévoles, des fois, on culpabilise un petit peu. Donc, on a envie de donner plus que juste notre statut de militant. Ce qui est très prenant en temps, en énergie et en vie privée, c'est souvent un peu conflictuel. Parce qu'en effet, je me suis fait reprocher une ou deux fois où on me disait « oui, mais toi, t'es payé ». Donc du coup, quand on est face à ce type de retour, on dit « oui, mais je compte pas mes heures ». On en arrive presque par la pression et peut-être une forme de culpabilité en fin de compte à ne plus vraiment regarder les heures et à y aller et à essayer de répondre au maximum de sollicitations et à être présent dans le maximum d'endroits où à ce moment-là il y a une lutte, il y a un rassemblement où on peut être utile en tant que salarié du réseau Sortir du Nucléaire ou en tant que simple militant. Mais en général, à ce moment-là, on ne peut plus arriver quelque part en étant juste simple militant. Donc de toute manière, on est toujours dans le cadre du salariat.
Ton livre, hein, dont je rappelle le titre d'ailleurs, a une énergie anti-nucléaire, mon engagement dans les réseaux écologistes. On pourrait penser que c'est seulement des souvenirs personnels, mais tu as scandé un petit peu le livre par les multiples actions qu'a géré le réseau Sortir du Nucléaire pendant toute cette époque. Est-ce qu'il y en a une un peu plus marquante comme ça, moi j'en ai vu plusieurs dans le livre, mais qui pour toi sont une des plus marquantes, soit en expérience personnelle, soit en réussite militante, soit en échec militant?
En réussite, et moi celle qui m'a le plus marqué, de toute manière c'est la toute première, c'est celle à Cherbourg,
sur
un week-end, 30 000 personnes, une dynamique folle, une ambiance du tonnerre, alors qu'on était dans un des lieux les plus nucléarisés au monde. Il y a eu un tel retour, une telle présence que moi j'en suis ressorti mais gonflé à bloc. J'avais déjà eu pas mal d'expériences militantes avant, mais jamais sur d'aussi gros événements. Donc pour moi ça reste quand même un peu l'événement phare qui moi reste énormément dans le même type d'événement réussi et qui en plus avait une dynamique très intéressante. Pour moi c'était la chaîne humaine là du 11 mars 2012 parce que justement elle est partie d'une dynamique qui était locale d'individus qui n'étaient pas encartés, donc c'était vraiment à la base un mouvement populaire auquel le réseau s'est rattaché pour lui donner une ampleur nationale, et il y en avait en effet besoin. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est ça a vraiment été cette dynamique individuelle, locale, populaire qui portait tout ça, parce que je pense, le titre du livre c'est une énergie anti-nucléaire, parce que pour moi je pense que pour sortir du nucléaire il n'y a qu'une seule énergie qui va nous permettre, c'est l'énergie humaine, c'est l'énergie des sympathisants et des militants, et c'est que il faut qu'on arrive à être à un point de rupture en termes de mobilisation pour réussir à faire pencher la balance de notre côté. Mais c'est pas toutes les alternatives dont on parle qui vont nous permettre de sortir du nucléaire, ça va être l'énergie des militants, des citoyens et des sympathisants qui vont se lever et qui vont dire ça suffit maintenant, il faut faire quelque chose. Donc on voit que depuis quelques années justement, il y a un retour en force de l'opposition au nucléaire c'est la base qui va faire bouger la tête.
Alors, ça apparaît pas trop dans le livre, mais là, justement, dans le débat qu'il y a eu aujourd'hui à Pierre Latte, un film est passé avant. C'est toi qui avais fait le choix du film. Ça relate la lutte de la population de choses dans les Ardennes, et aussi une lutte ouvrière, puisque on a une grève dans une aciérie à côté, la Chiez, si mes souvenirs sont bons. On présente souvent les militants écologistes anti-nucléaires comme des gens qui s'occupent que de l'écologie, le social, ils s'en foutent, ou même, dans certains cas, même, ils sont pour la privatisation et tout ça. Dans ce choix de ce film, on le voit aussi, on le lit un peu dans ton livre aussi, il y a aussi une préoccupation sociale, manifestement.
Bah, disons que oui, moi, c'était spécifiquement concernant le nucléaire, en sachant que pour moi l'urgence c'est d'en sortir le plus rapidement possible. Mais de toute manière, oui, on touche à beaucoup de sujets de société. Le deuxième, j'allais dire, c'est le côté humain. Social serait presque un peu réductif, mais je pense que c'est l'aspect humain dans son ensemble qui est touché par le nucléaire. Parce que bon, bah, il y a les conditions de travail pour les sous-traitants. Il y a la manière dont le nucléaire est imposé aux populations. Il y a tous les risques concernant la santé. L'humain, de toute manière, est touché de multiples manières par le nucléaire. Donc, on ne peut pas, de toute manière, passer à côté de l'aspect social, et je pense que le principal aspect social concernant le nucléaire, on va dire, c'est surtout les travailleurs du nucléaire et leur requalification à laquelle il faudrait penser très rapidement, et le soutien justement du coup à des luttes comme là avec les salariés du nucléaire ou les sous-traitants du nucléaire ou le réseau sortir du nucléaire ainsi que d'autres antinucléaires, justement soutiennent ce type de lutte parce qu'elles sont aussi importantes et elles dénotent également d'un problème de fonctionnement du nucléaire en France. Il n'y a pas uniquement un problème de fonctionnement au niveau technique, il y a des problèmes de fonctionnement au niveau humain également, et ça fait des gros dégâts, autant psychologiques que sanitaires par rapport aux doses et autres. Et on voit que là, il y a un laisser-aller depuis quelques années, donc il faut également agir sur ce point-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va défendre l'emploi dans le nucléaire, mais on va défendre la condition des employés dans le nucléaire.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? De matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord,
nous sommes toujours avec Jocelyn Perret pour la sortie de son livre « Une énergie antinucléaire, mon engagement dans les réseaux écologistes ». Alors Jocelyn, venons-en au réseau sortir du nucléaire lui-même. Que représente-t-il à l'époque de ton arrivée comme salarié et militant ?
C'est une association qui commence à avoir un peu d'envergure, qui
en 2004.
Hein, en 2004, je la connaissais déjà un petit peu. Donc en 2004, le réseau a déjà 7 ans, puisqu'il a été créé en 97. Donc quand le gouvernement Jospin a décidé de fermer Superphénix, puisqu'il y avait une association qui s'appelait les Européens contre Superphénix. Et donc, une fois le Superphénix fermé, cette association n'avait plus de raison d'exister. Et ils ont décidé de créer le réseau Sortir du Nucléaire, justement pour dynamiser une lutte antinucléaire en France. Donc en 2004, l'association commençait à grossir, mais moi quand j'ai débarqué, on était 4-5 salariés, c'était des petits locaux, il commençait déjà à y avoir de gros moyens financiers entre guillemets. Puisque pour Cherbourg en 2006, le coût du rassemblement sur les deux jours, c'était presque 150 000 euros, mais qui en fin de compte ont été presque aussitôt renfloués par les dons. Ça a été assez impressionnant, justement, les retours qu'il y avait eu à ce moment-là. Mais donc, à ce moment-là, le réseau était, entre guillemets, encore une bande de copains, c'est-à-dire de militants qui s'étaient déjà croisés sur différentes luttes et qui, à un moment, se sont retrouvés salariés au sein du réseau Sortir du Nucléaire parce que le réseau embauchait et qu'on était là à ce moment-là, qu'on se connaissait. Et que donc, voilà, moi j'étais militant anti-nucléaire, ils me connaissaient en tant que militant anti-nucléaire, j'étais disponible, ils savaient déjà un peu ce que je valais par rapport à ce que j'avais fait autour, donc du coup j'étais là au bon moment, au bon endroit, et je me suis retrouvé salarié d'une association où en fin de compte, les salariés étaient des copains de lutte. Nous étions clairement des militants et donc des professionnels du militantisme mais venant du terrain et n'arrivant pas avec des diplômes tandis que depuis c'est vrai qu'il y a une formalisation au sein du réseau où on embauche un peu sur diplôme et un peu sur le militantisme mais où voilà maintenant avec une quinzaine de salariés c'est plus du tout la même dynamique, la même ambiance, même si ça reste encore très sympathique. Mais c'est vrai que les personnes qui arrivent sont des personnes nouvelles. Alors que moi, ça faisait encore partie, en gros, d'un petit groupuscule et où on était potes et où on était militants avant tout, quoi. Et donc, où c'était des fois un peu l'occasion de se dire, ah ben voilà, là, je vais pouvoir continuer à militer sur un plein temps en étant salarié un mi-temps, même si on était à 35 heures par semaine. C'est parce que, en gros, on faisait notre boulot de salarié, mais en même temps, on continuait derrière, comme je disais tout à l'heure, avec du bénévolat, quoi. Donc, il y avait encore toute cette dynamique qui me portait.
Donc, tu as, en fait, ton expérience au réseau, là, tu as vu ce passage entre initialement des militants qui certes deviennent salariés du réseau, mais sont encore dans un réseau militant, à une professionnalisation quasiment de ce réseau qui, rappelons-le, regroupe plus de 700-800 associations. Comment tu as vu l'évolution de ce passage avec des professionnels et peut-être une organisation qui se coupait un petit peu de sa base?
Je dirais pas que se coupe de sa base, mais je pense que l'évolution, en effet, elle s'est faite à partir du moment où est arrivé dans les salariés des personnes qui avaient une toute petite expérience du militantisme, mais qui avaient par contre des bagages universitaires et autres, qui amenaient justement une forme de professionnalisation dans la communication ou dans la stratégie, ce que une professionnalisation que moi je n'avais pas. Je suis autodidacte, tout ce que j'ai appris c'est en le faisant en gros et donc petit à petit je voyais qu'on me demandait de plus en plus de comptes à rendre. C'est pas que j'avais de moins en moins de liberté mais c'est que petit à petit tout devait être de plus en plus lissé. Petit à petit, par exemple, alors que moi j'envoyais les appels à mobilisation, je les rédigeais, je les envoyais, donc c'était des appels à mobilisation entre guillemets à la sauce Jocelyn. Alors peut-être que j'ai trop abusé, petit à petit c'était non, il faut que tout passe par le CA ou alors un comité qui va s'en occuper, que voilà, qu'il y ait des avis, des avals, et pour arriver à quelque chose que justement là où maintenant, je me dis, j'ai bien fait de partir parce que je ne m'y retrouverai pas. Mais à des appels, il y a beaucoup de messages comme ça qui, en fin de compte, sont lisses et on ne sait pas qui est derrière. Il y a une signature en bas, mais on pourrait changer la signature, ça serait exactement le même message. Et c'est moi ce qui a commencé à me déranger. Justement, ce que j'appréciais, c'était ce caractère de individuel. Chacun, il met sa patte et c'est moi qui m'exprime tout en respectant certaines consignes. Mais voilà, c'était du Jocelyn dans le texte. Maintenant, c'est plus du Jocelyn. Et ça fait un peu trop. Il y a une machine derrière. Et en fin de compte, les employés sont interchangeables. Et il n'y a plus cette individualisation de l'employé au sein du réseau Sortir du Nucléaire. Donc ça s'est fait petit à petit. Après, c'est la logique d'une association qui grandit. Elle devient de plus en plus puissante, elle a de plus en plus de salariés, mais ça veut dire qu'il y a aussi le budget qui va avec. Il y a un impact qui est beaucoup plus important, des sympathisants ou des lecteurs aussi dont le nombre augmente, et donc où il faut répondre à de plus en plus de demandes techniques et précises et être carré et à la limite donner une bonne image d'eux. pour que tout le monde puisse venir. Donc à partir de ce moment-là, une structure qui prend de l'envergure, il perd un peu en termes de relations humaines, justement pour devenir une sorte de grosse machine. Et je pense que le réseau, depuis quelques années justement, est un peu sur ce virage-là et qui ne sait pas comment le prendre. Mais moi, ce virage-là, déjà, ça m'intéressait pas de l'aborder, de commencer à le prendre. Et donc, j'ai pas pu vraiment le voir arriver. Je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là. Mais moi, j'en suis sorti en me disant que non, j'avais pas envie de prendre de virage. Que c'était pour moi, je pense, le moment de passer à autre chose.
On a choisi de t'interroger, c'est dans le livre de toute façon, mais aussi de t'interroger sur cet épisode-là, parce que on est très exigeant, nous en tant que militants antinucléaires, sur Atomic Mac notamment, sur l'opacité, la dureté des rapports de l'industrie du nucléaire. Donc à la limite, quand nous-mêmes faisons des erreurs, ça sert à rien de le cacher. On s'est dit dans l'émission, c'est important aussi d'en parler. Bon, cela dit, le réseau existe toujours, la crise n'est pas non plus complètement terminée, plein de groupes maintenant sont en dehors du réseau Sortir du Nucléaire. Est-ce que tu as une idée un petit peu de comment on peut redonner au réseau son éclat d'antan, ou est-ce qu'il faut carrément faire autre chose et repartir sur d'autres bases?
Je sais pas, disons que je pense que l'éclat d'antan, c'était d'antan, c'était avant, et c'était il y a quelques années. Donc voilà, le réseau a évolué, a bougé, et il a un éclat qui est autre actuellement. Donc faut juste se méfier que ce soit pas un faux éclat, tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais il a actuellement une reconnaissance, on va dire, au niveau national, au niveau d'une partie de la population, au niveau des organisations. Donc il a une place actuellement qu'il ne faudrait pas qu'il la perde en termes d'écoute. Ce qu'on reproche au réseau, c'est justement, bon, suite au départ de Stéphane Lhomme, c'est d'être beaucoup plus consensuel, beaucoup plus professionnel et beaucoup moins radical. Je pense qu'en effet, c'était un choix qui a eu à faire à ce moment-là pour élargir encore plus l'audience du réseau Sortir du Nucléaire. Donc actuellement, c'est le cas. Il y a une audience qui est très 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 large, qui est beaucoup plus large qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 4 ans, quoi. Mais actuellement, pour moi, le réseau reste un outil qu'il faut utiliser. Il faut apprendre à l'utiliser, il faut savoir l'utiliser, en se disant aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans les changements qu'on peut apporter au réseau, puisque les membres du conseil d'administration sont élus en AG, que lors de cet AG, les personnes qui vont voter, ce sont les représentants des groupes, et que ces représentants de groupes peuvent également proposer des motions, des campagnes qui seront portés par le réseau Sortir du Nucléaire, comme ils peuvent également proposer des candidats à l'élection au conseil d'administration. Donc actuellement, tant que tout ça n'est pas verrouillé, il y a une opportunité d'être, de changer, d'investir le réseau et d'apporter également sa voix et sa manière de voir les choses. On n'est pas dans le fonctionnement d'autres structures où tout est fermé. Là, ça reste ouvert. Donc, il y a encore cette possibilité-là de changer les choses. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais c'est possible. Et donc, je pense que tant que la porte n'est pas fermée, il faudrait qu'il y ait des personnes qui s'y engouffrent. Et puis sinon, après, je pense qu'actuellement, le réseau a une grosse force de frappe. Donc il faut pouvoir utiliser, par exemple, pour la prochaine chaîne humaine du 13 mars, parce que justement, il peut y avoir de très 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 bonnes retombées en termes médiatiques, mais aussi en termes de mobilisation. Et donc je pense que c'est ça fait la force du réseau. Et donc maintenant, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être qu'il y ait un vrai travail autour de la refondation du réseau, qu'on se pose la question de pourquoi le réseau et comment, et qu'on voit aussi, là le réseau arrive à une quinzaine de salariés, ça commence à devenir lourd à gérer administrativement et financièrement. Donc il y a un risque également de dérive de ce côté-là, pour qu'à chaque fois les aspects financiers soient plus importants que l'information qu'on va faire passer.
Et militant,
voilà. Et en gros, c'est, est-ce que cette information est rentable financièrement? Sinon, bon, ben on l'envoie pas. Donc il va falloir que là, ils soient très très méfiants. Et je pense qu'il y a plusieurs portes de sortie pour eux, à condition justement qu'ils arrivent à réfléchir et à essayer de rebondir en termes de fonctionnement interne.
Alain, tu voulais poser une question. Ah, Alain ne peut plus poser la question. Bon, une dernière question, mais là qui est plutôt personnelle pour toi. J'ai vu qu'à côté de ton livre, tu as sorti aussi un petit recueil de nouvelles. Maintenant que tu n'es plus salarié de Sortir du Nucléaire, même si tu travailles encore un petit peu quelquefois en CDD avec eux, ton avenir, l'écriture, le théâtre ou de nouveau une nouvelle association ?
À vrai dire, j'en ai aucune idée. Mais l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué depuis plus de 20 ans, c'était souvent des petits textes. Au départ, sur Valence, j'étais dans un groupe de punk qui s'appelle The Cavernous, pour les quarantenaires, s'ils s'en souviennent. Donc The Cavernous, à Valence, il y a une vingtaine d'années, et en fin de compte, j'avais commencé à écrire des textes pour ce groupe-là, et puis j'ai toujours plus ou moins continué, avec des périodes où c'était la page blanche, je faisais rien, et d'autres où je balançais un petit peu. Et puis, en fin de compte, je me suis retrouvé depuis 5-6 ans à reprendre un peu l'écrit, mais par période, puis aller faire un ou deux stages d'écriture. Et j'ai sorti deux petits bouquins auto-édités il y a 2-3 ans pour le plaisir. Et puis il y a eu justement le livre là, Une énergie antinucléaire, qui m'a demandé beaucoup de travail, mais en même temps ça a été une école, m'a formé un peu à ce type de travail. Je suis pas un pro, hein. Là encore je suis autodidacte, mais en fin de compte c'est une activité que j'aime bien. Donc du coup, vu que là j'ai arrêté de travailler il y a 2 ans, bon, j'ai travaillé entre temps, hein, 6 mois pour le réseau, 1 mois pour Silence, 1 mois encore pour le réseau, puis là je travaille pendant encore un petit peu là. Mais du coup là c'est vrai que j'emploie mon temps libre à écrire, et donc j'ai écrit quelques nouvelles, et puis là j'ai fini un projet de polar militant qui se passe en Australie et qui parle de la problématique des mines d'uranium et de la souveraineté des peuples aborigène, parce que l'année dernière je suis allé marcher 3 mois justement sur ces questions-là en Australie, quoi. Donc oui, actuellement je me dis j'ai du temps, donc je me fais plaisir, et donc j'aime bien écrire, donc j'écris.
Voilà. Écoute, on va conclure cette émission avec toi, Jocelyn. On espère que tu as donné et qu'on a donné envie d'acheter ton livre, et puis peut-être les prochains. Merci pour le boulot qui a été fait. Nous, on a un souvenir de toi, et c'est pour ça aussi qu'on t'avait fait venir de la chaîne dans la vallée du Rhône, hein, puisqu'on a beaucoup travaillé avec toi à ce moment-là. On te reverra peut-être plus à ce niveau, mais peut-être dans les librairies, et ça nous fera aussi plaisir. Salut à toi, Jocelyn.
Salut, puis peut-être dans les manifs.
Et dans les manifs.
Merci.
Eh bien, nous attaquons le mois d'octobre, et un mois d'octobre avec beaucoup d'initiatives autour du nucléaire et des luttes antinucléaires. Pierrick, qu'est-ce que tu nous as contacté pour ce mois ?
Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Il y a mercredi 3 octobre un film qui sera diffusé au navire à Valence à partir de 20h, qui s'intitule « Tous cobayes » de Jean-Paul Jouot, film que je vous invite à aller voir. Et puis, 10 jours plus tard, à compter du 13 octobre, il y a un grand rassemblement qui est prévu à Lyon, rassemblement qui fait partie d'un ensemble. Il y a d'autres villes qui se mobilisent ce jour-là, Laval, Bordeaux, Strasbourg, Metz, Lille, Narbonne. Donc c'est un rassemblement, on va dire, national dans plusieurs endroits, sous l'égide du réseau Sortir du Nucléaire, et qui est en fait la reprise d'une initiative du collectif Stop Buget, qui organise du 11 au 13 des marches des réfugiés du nucléaire pour essayer de mobiliser la population qui aurait à fuir en cas d'incident sur cette vieille centrale qui a dépassé les 30 ans. Et du coup, ce collectif espère qu'un maximum de gens les rejoindront pour les marches, et donne rendez-vous pour une manif un petit peu plus traditionnelle, mais vous verrez qu'elle est bien complète, à 14h à Lyon dans la fosse aux ours, avec notamment des stands pour chercher du travail quand on est chercheur d'emploi, soit dans les énergies renouvelables, soit en tant que liquidateur en cas de souci sur cette centrale. Il y a également un stand de décontamination des réfugiés qui vont arriver, donc les fameux marcheurs. Il y a également des stands d'information pour que les gens puissent aller cueillir de l'info le plus possible lors de ces rassemblements. Il y aura des concerts, des prises de parole, également une initiative de chaîne humaine qui est prévue jusqu'à la préfecture pour rappeler au préfet fait quelles sont ces modalités d'action en cas d'incident, hein, les fameux plans particuliers d'intervention. Et puis bah, tout ça, bien évidemment, avec buvette, ambiance festive et musicale, et notamment en présence des artistes du label Jarring Effect et de tous les groupes militants locaux. Voilà, donc si vous souhaitez, il y a plusieurs départs groupés qui sont possibles. Des départs groupés depuis Grenoble, Saint-Étienne, Chalon-sur-Saône, Tournu, Mâcon, Chambéry, Montélimar. Donc voyez qu'il y aura du monde, ça va être un joli événement. Mais également départs groupés au départ de Valence, 12 € la place aller-retour. Départ en quart, place de Dunkerque. Vous pouvez réserver votre place sur sdn26-07.org, le site de l'association. Sentez-vous libre de le faire rapidement, ça permettra d'anticiper s'il faut 1, 2 ou 3 bus. Et puis voilà, j'espère que ça vous donne envie de participer à cet événement plutôt sympathique. Il est également prévu une action rond-point le 19 octobre, c'est un vendredi soir aux heures de pointe, donc sur le rond-point des Auréas à côté du KFC, de 18h30 à 20h30, action pendant laquelle on déplie des banderoles sur le rond-point avec un message assez clair, éclairage égale gaspillage. On rappelle notamment que le fait d'éclairer les ronds-points les rend beaucoup plus accidentogènes, et puis on peut économiser cette énergie. Voilà, je vous invite également à ne pas avoir peur d'utiliser le numéro gratuit de notre répondeur en vue d'une émission qui répondra à toutes les questions que vous n'avez jamais osé vous poser sur le nucléaire, à savoir au 0805 696 758, numéro gratuit, je le rappelle. Notre prochaine émission de début novembre aura lieu le 3 novembre et je vous remercie de votre fidélité et je vous rappelle que nous avons eu le plaisir d'entendre aujourd'hui une musique de Zazie, Je suis un homme, une musique de Lavilliers qui s'appelle État des lieux, et tout de suite on va finir en chanson avec la chanson Parano du groupe La Tordue. Merci à tous.
Y'a ceux qui font de la parano, un apéro national. Y'a ceux qui mettent leur veto sur la jante animale. Y'a ceux qui bouffent des vélos pour passer dans le journal. Y'a ceux qui se piquent au sang de veau pour pas perdre les pédales. Y'a ceux qui jouent au torero sur les routes nationales. Y'a des parfums capitaux qui sniffent le scandale. Y'a des vieux sans sectaires pas beaux qui puent la sandale. Y'a des elfes pas très réglo dans les pompes à Total. Y'a les gueux, y'a les prospères, y'a le pudding de ta grand-mère. Y'a les affreux, y'a les affaires, y'a les buildings de la misère. Y'a le soleil, y'a le tonnerre, y'a toi, y'a moi, y'a ta grand-mère. Y'a le tout petit qui sait rien faire, et Marcel qui se roule par terre. Y'a ceux qui font de la parano, un apéro national. Y'a ceux qui croient noyer leurs mots dans les flots d'idées sales. Y'a ceux qui tombent dans le panneau et ceux qui jettent dans le canal. Ceux qui se la coulent en pédalo et ceux qui rament sur le Baïkal. Y'a ceux qui restent le bec dans l'eau et ceux qui partent en bacchanal. Y'a ceux qui se partagent le gâteau et ceux qui crèvent sur la dalle. Y'a les gueux, y'a les prospères, y'a le pudding de ta grand-mère. Y'a les mafieux, y'a les faux frères, y'a le mauvais bleu et le camembert. Y'a le soleil, y'a le tonnerre, y'a toi, y'a moi, y'a ta grand-mère. Y'a le tout petit qui sait rien faire, et Abdel qui se roule par terre. Y'a ceux qui descendent de chevaux et ceux qui montent des cabales. Y'a ceux qui croupissent dans le ghetto et ceux qui s'envolent en cavale. Y'a ceux qu'on mène en bateau et ceux qui mènent le bal. Y'a le soleil,